Montaigne les essais, par divers moyens, on arrive aux mêmes fins. La façon la plus courante d'amadouer ce qu'on a offensé, lorsque, prêts à se venger, ils nous tiennent à leur merci, c'est de susciter en eux, par notre soumission, la pitié et la commisération. Et pourtant, la bravade, la constance et la détermination, qui en sont l'inverse, ont parfois produit le même effet. Édouard, le prince de Galles, qui régna si longtemps sur notre Guyenne, personnage dont la condition et le destin ne manquent pas de grandeur, avait été gravement offensé par les Limousins. En s'emparant de leur ville, il ne se laissa pas attendrir par les cris du peuple, des femmes et des enfants abandonnés au massacre, implorant sa pitié et se jetant à ses pieds. Mais comme il avançait plus savant dans la ville, il aperçut trois gentilshommes français qui, faisant preuve d'une hardiesse incroyable, soutenaient à eux seuls l'assaut de son armée victorieuse. La considération et le respect que lui inspirèrent un courage aussi remarquable émoussèrent sa colère, et après avoir accordé sa miséricorde à ces trois-là, il l'accorda à tous les autres habitants de la ville. Skanderbeg, prince de l'Épire, poursuivait un de ses propres soldats pour le tuer. Celui-ci, ayant essayé de l'apaiser par ses protestations d'humilité et ses supplications, se résolut en dernière extrémité à l'attendre l'épée au poing. Cette résolution arrêta net la furie de son maître, qui, lui voyant prendre un si honorable parti, lui accorda sa grâce. Mais il est vrai que ceux qui n'auraient pas eu connaissance de la vaillance et de la force prodigieuse de ce prince pourraient donner à son attitude une autre interprétation. L'empereur Conrad III, ayant assiégé le guelfe de Bavière, ne voulut pas adoucir ses conditions, aussi viles et lâches qu'aient pu être les satisfactions qu'on lui offrit. Il permit seulement aux dames, qui étaient assiégées avec le duc, de sortir sans qu'il fût porté atteinte à leur honneur, à pied et avec ce qu'elles pourraient emporter sur elles. Et elles, d'un cœur magnanime, eurent l'idée de charger sur leurs épaules leurs maris, leurs enfants et le duc lui-même. L'empereur fut tellement impressionné par la noblesse de leur attitude qu'il en pleura de contentement, et que l'inimitié mortelle et totale qu'il éprouvait envers le duc s'adoucit. Et à partir de ce moment, il le traita humainement, lui et les siens. Quant à moi, je me laisserai entraîner aussi bien vers l'un que l'autre de ces attitudes, mais j'ai une certaine faiblesse pour la miséricorde et la mansuétude. Si bien qu'à mon avis, je me rendrai plus facilement à la compassion qu'à l'admiration. La pitié est pourtant, pour les stoïciens, un mauvais sentiment. Ils considèrent que si l'on doit porter secours aux affligés, on ne doit pas se laisser fléchir au point de partager leurs souffrances. Les exemples précédents me paraissent d'autant plus convaincants que l'on y voit des caractères confrontés à ces deux attitudes résister à l'une et fléchir devant l'autre. On peut dire que se laisser toucher par la commisération, c'est céder à la facilité, la bonté et la faiblesse. Et l'on voit bien que les natures les plus faibles, comme celles des femmes, des enfants et du vulgaire, y sont plus sujettes. Mais qu'après avoir méprisé les sanglots et les larmes, on se rende simplement par dévotion envers le courage, c'est en fait la marque d'un caractère fort et inflexible qui affectionne et honore la mâle vigueur et la détermination. Et pourtant, en des âmes moins généreuses, l'étonnement et l'admiration peuvent avoir le même effet. C'est ce dont témoigne le peuple thébain. Ayant requis en justice la peine capitale à l'encontre de ses chefs, qu'il accusait d'avoir continué à exercer leur charge au-delà de la période prescrite et convenue, Il pardonna difficilement à Pélopidas, écrasé par les accusations à son encontre, et qui ne se défendait que par requêtes et supplications. Dans le cas d'Épaminondas, au contraire, qui se complut à raconter ses hauts faits jusqu'à en faire honte au peuple, par fierté et par arrogance, personne n'eut le cœur de procéder au scrutin, et on se sépara, l'assemblée louant grandement le remarquable courage de l'accusé. Denis l'Ancien, qui avait pris la ville de Rége après un siège qui avait traîné en longueur et au prix de grandes difficultés, voulut faire du capitaine Phyton, homme estimable, et qui avait obstinément défendu sa cité, un exemple de sa vengeance implacable. Il commença par lui dire comment il avait fait noyer son fils et toute sa famille le jour précédent. À quoi Phyto répondit simplement qu'ils étaient donc d'un jour plus heureux que lui. Il le fit alors dépouiller de ses vêtements et le livra à des bourreaux qui le traînèrent par la ville en le fouettant de façon cruelle et ignominieuse et l'accablant de paroles injurieuses et méchantes. Mais le malheureux conserva son courage et sa dignité. D'un visage ferme, il rappelait au contraire la cause honorable et glorieuse de sa mort, qui était de n'avoir pas voulu remettre son pays entre les mains d'un tyran, et il menaçait d'une prochaine punition divine. Au lieu de s'indigner des bravades de cet ennemi vaincu et du mépris qu'il affichait pour leur chef et son triomphe, l'armée était émue et étonnée par une vertu si rare. Elle songeait à se mutiner, même à arracher Phyton d'entre les mains de ses tortionnaires. Alors Denis, lisant cela dans les yeux de ses soldats, fit cesser son martyre et le fit secrètement noyer en mer. Certes, c'est un sujet extraordinairement vain, divers et ondoyant que l'homme. Il est malaisé de fonder à son égard un jugement constant et uniforme. Voilà Pompée qui pardonna toute la ville des Mamertins contre laquelle il était fort irrité en considération de la vertu et de la magnanimité du citoyen Zénon, car celui-ci prenait à son propre compte la faute publique et ne demandait pas d'autre grâce que d'en supporter seul la punition. Mais l'hôte de Sylla, ayant fait preuve en la ville de Pérouse d'un semblable courage, n'y gagna rien, ni pour lui, ni pour les autres. Et à l'inverse de mes premiers exemples, voici celui d'Alexandre, le plus hardi des hommes, si bienveillant pourtant envers les vaincus, emportant après bien des difficultés la ville de Gaza. Il y trouva Bétis qui commandait, et dont il avait pu apprécier la valeur durant le siège par des preuves extraordinaires. Bétis était seul, à ce moment, abandonné par les siens, ses armes mises en pièces, tout couvert de sang et de plaies, et combattant encore au milieu de Macédoniens qui le harcelaient de toutes parts. Alexandre lui dit alors, irrité qu'il était d'une victoire si chèrement acquise, car il venait encore d'y être blessé deux fois, « Tu ne mourras pas comme tu l'as voulu, Bétis. Sache qu'il te vaudra subir toutes les tortures que l'on peut inventer pour un captif. » Et l'autre, la mine non seulement assurée, mais arrogante et hautaine, reçut ses menaces sans proférer le moindre mot. Alexandre, devant son mutisme obstiné, se disait « Mais a-t-il fléchi à genoux? Lui a-t-il échappé quelques supplications ?» « Ah oui, vraiment, je vaincrai ce silence, et si je ne puis en arracher quelques paroles, j'en arracherai au moins un gémissement. » Et sa colère devenant rage, il commanda qu'on lui perça les talons et le fit ainsi traîner tout vif, déchiré et démembré, derrière une charrette. Serait-ce que le courage lui était si commun et naturel qu'il ne le trouvait pas vraiment admirable et que de ce fait il le respectait moins, ou parce qu'il le considérait tellement comme sa chose propre qu'il ne pouvait supporter de le voir à un tel degré chez un autre, sans en éprouver de dépit et de l'envie, ou encore que l'impétuosité naturelle de sa colère ne pouvait supporter d'être contrariée. En vérité, s'il avait pu être dompté, tout porte à croire que lors de la prise de Thèbes, elle l'eût été à avoir passé au fil de l'épée tant de vaillants hommes qui n'avaient plus aucun moyen de se défendre. Car il y en eut bien 6 000 de tués, et aucun d'entre eux ne songea à fuir ni à demander grâce. Au contraire, ils cherchèrent encore, ici ou là, de par les rues, à affronter les ennemis victorieux et même les provoquaient pour obtenir d'eux une mort honorable. On n'en vit aucun qui n'essayât, dans ces derniers instants, de se venger encore et avec l'énergie du désespoir, de se consoler de sa propre mort par celle de quelque ennemi. Leur courage désespéré ne suscita aucune pitié, et une journée entière ne suffit même pas à Alexandre pour assouvir sa vengeance. Ce carnage dura jusqu'à ce qu'il n'eût plus une seule goutte de sang à répandre, et il épargna que les personnes désarmées, les vieillards, les femmes et les enfants, dont on fit 30 000 esclaves.